Appel sur l'actualité.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Zéphirin Quadio.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité avec à suivre dans un instant vos réactions et vos témoignages sur le fléau des mariages forcés. Aujourd'hui, plus de 700 millions de femmes dans le monde ont été mariées de force alors qu'elles étaient encore enfants, selon les derniers chiffres publiés par l'UNICEF. Eh bien, on observe que parmi ces centaines de millions de victimes de mariages forcés, plus d'une sur trois ont été mariées alors qu'elles n'avaient pas 15 ans. Près de la moitié de ces mariages forcés ont lieu en Asie du Sud, essentiellement en Inde. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dénonce cette pratique, toujours en cours dans de nombreux pays. Alors comment protéger les fillettes de ce fléau? La mobilisation contre cette pratique est-elle suffisante? Quelle est la situation dans votre pays? Pour en débattre, vous nous rejoignez 33 9 693 693. 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Abdoulaye est à Dakar et c'est lui qui lance le débat. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
Abdoulaye, au Sénégal, l'âge légal, je crois, pour se marier est de 18 ans pour les hommes et de 16 ans pour les femmes. Est-ce que dans votre pays, le mariage forcé est une pratique très répandue?
Oui, le mariage forcé au Sénégal est assez répandu, peut-être pas aussi répandu que dans d'autres pays de continent asiatique, mais il y a certaines ethnies, notamment les ethnies peules, où il y a quand même une grande quantité, où il y a une grande proportion de mariage forcé.
Mmh. Alors, vous êtes gynécologue, Abdoulaye, je vois sur votre fiche, et vous avez observé que les préadolescents qui sont victimes de mariage forcé courent aussi de gros risques en cas de grossesse.
Effectivement, j'ai eu la chance il y a quelques années de faire un stage dans la région de Tambacounda, dans la région orientale du Sénégal,
oui.
Où j'ai eu à constater une situation. Il s'agissait de jeunes filles qui avaient été mariées précocement, vers 14-15 ans, et qui étaient tombées enceintes. Et du fait de l'immaturité de leur bassin, au moment de l'accouchement, ils avaient beaucoup de difficultés à faire sortir le bébé. Et le travail pouvait durer plusieurs jours. À la fin, en général, le travail, l'accouchement est soldé par la mort de l'enfant, n'est-ce pas ? Et avec la compression de la vessie entre le pubis de la patiente et la tête du bébé pendant les heures du travail, quelques jours, quelques semaines après l'accouchement, on observait un phénomène de fistule vésico-vaginale, c'est-à-dire une communication entre les voies urinaires, entre la vessie ou l'utère, oui. Et les voies génitales de la femme. Il faisait que beaucoup de femmes étaient dans cette situation et finalement, il y avait même une sorte de village de fistuleuses où toutes ces femmes qui avaient justement ces fistules étaient rejetées. Il y a une certaine exclusion sociale en rapport avec les conséquences de cette fistule, de la perte spontanée d'urine de ces patients. Mmh. Elles étaient isolées du village à cause de ces fistules qui étaient effectivement dues à l'immaturité de leur bassin au moment de l'accouchement.
Mmh. Merci en tout cas Abdoulaye pour ce témoignage, ce premier témoignage pour lancer notre échange sur ce fléau qui est le mariage forcé. Comment protéger les filles du fléau du mariage forcé? La mobilisation contre cette pratique est-elle suffisante à vos yeux? Quelle est la situation dans votre pays? Steve est à Kinshasa. Bonjour Steve.
Bonjour.
Quelle est la situation dans votre pays, Steve?
C'est vrai, le phénomène existe encore dans mon pays, mais il a tendance à diminuer, c'est un fait.
Oui.
Il est plus concentré plutôt dans le milieu rural que le milieu urbain.
Oui, mais encore?
Et il est dû principalement à la pauvreté et au manque d'éducation, d'après moi.
Et comment lutter efficacement? Est-ce que vous sentez une mobilisation des pouvoirs publics autour de cette question? Est-ce qu'il y a des associations qui s'en emparent? Comment ça se passe?
Les pouvoirs publics, peut-être pas directement, mais sinon il y a des lois qui protègent justement, qui défendent ces pratiques. Des organisations non gouvernementales, il y en a. Mmh. Mais je pense que la meilleure façon de lutter contre ces phénomènes, c'est d'abord résoudre les problèmes d'éducation des jeunes filles. Résoudre les problèmes d'éducation, mmh. Et puis c'est un problème global qui est dû à la pauvreté. Mmh. Donc résoudre les problèmes de la pauvreté. Principalement, ce sont ces deux phénomènes. Mmh. qui sont à la base de mariage, de
en un mot, que dit, que dit,
d'éducation.
Oui, Steve, en un mot, que dit la loi dans votre pays, en République démocratique du Congo? Je précise à l'instant que au Sénégal,
regarde les codes de la famille quand il définit le mariage. Le mariage est un contrat et les contrats doivent être, il doit y avoir un consentement. Ça veut dire, il peut pas, à partir du moment où la loi prévoit qu'il y ait un consentement pour que les contrats du mariage soient signés, cela suppose que, justement, le mariage ne doit pas être forcé.
Très bien. Exode rural, donc, analphabétisme, pauvreté, sont sans doute, hein, comme vous l'expliquiez à l'instant, les premiers problèmes à résoudre pour arrêter les mariages forcés. C'est en tout cas votre point de vue, Steve, et puis le témoignage que vous pouvez apporter à ce débat. Chantal est à Yaoundé. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour Zéphira. Oui, je voulais intervenir justement pour ce mariage. Ça existe au Cameroun, dans certaines ethnies. Comme je vous entendais dit tout à l'heure, qu'il y a un code pour le mariage, vous savez, ce sont des traditions dont les gens passent outre ces traditions-là et ça existe dans certains coins.
Dans quelle région du Cameroun, précisément, cette pratique est en cours?
Dans
le nord Cameroun.
Elle est très courante au nord. C'est-à-dire les enfants dès l'âge de 14 ans à peu près.
Oui.
Et on choisit un âge.
Alors
c'est une tradition chez eux. Alors moi je pense que peut-être pour essayer de combattre, il y a peut-être des organisations sur place pour essayer de combattre ça, mais c'est un peu délicat. Moi je crois que l'éducation serait vraiment la solution. Éduquer les filles qui deviendront les mères plus tard, et puis les mères diront, n'accepteront pas que leur fille a un mariage à 14 ans, par exemple.
Est-ce que, selon vous, la mobilisation sur place au pays est suffisante? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un sujet dont on parle, sur lequel on est mobilisé pour apporter des réponses?
Mobilisation suffisante, je dirais non. Non. Vous savez, c'est une tradition. Quand vous voulez venir bousculer des traditions, des trucs qui sont ancrés pour vous, c'est normal qu'une fille à 14 ans, on trouve quelqu'un, le voisin, ou je sais pas, c'est normal. Alors, mobilisation, non, je pense pas. C'est des traditions.
Mais aujourd'hui, en 2014, cette tradition-là qui a quand même des allures d'esclavage, est-ce que ça suscite l'émoi chez les Camerounais, chez le Camerounais lambda, j'allais dire? Vraisemblablement, non.
Ça peut susciter si, par exemple, bon, je vous ai dit que c'est un peu au nord que c'est très courant. Ça peut susciter si, par exemple, on voit que ça se passe, par exemple, ici au sud, on voit une petite fille de là, ça va peut-être nous choquer. Est-ce que ça, c'est pas, nous, ça ne se fait pas. Mais là-bas, chez eux, non, c'est normal. Ça ne suscite rien. C'est normal.
Très bien, merci beaucoup Chantal pour ce témoignage depuis Yaoundé. Retour au standard 339-693-693-70. Fadiala est en ligne à Bamako. Bonjour Fadiala.
Bonjour.
Alors, est-ce que c'est une pratique courante dans votre pays? Et si oui, comment inverser la tendance selon vous, Fadiala?
Vous savez, le Mali également, le mariage forcé était monnaie courante. Mais je crois que la conscience a été prise non seulement par les autorités, mais aussi par pas mal de citoyens depuis l'avènement de l'indépendance en 1960 au temps des Modibo.
Oui.
Et si les gens se souviennent, il y a une artiste qui avait même chanté Tata Bambo Kouyaté. Et c'était vraiment une initiative que le président Modibo avait prise. Et une fois aussi, après l'avènement de l'indépendance, ensuite, en 1991, après l'avènement de la démocratie, c'est-à-dire après le renversement de Moussa Traoré, et encore, ça s'est renforcé davantage. Mais il reste encore quelques localités qui résistent encore, notamment dans les campagnes. Mais là aussi, il y a une rencontre entre cette civilisation et le milieu traditionnel. Parce que beaucoup de milieux traditionnels croient que la fille doit se marier et le choix normalement impose aux parents parce qu'elle n'a pas la capacité de faire un bon choix. Et souvent, c'est fait sur les critères des relations humaines qui sont entre les individus d'une société depuis les temps anciens. Donc,
ouais, on voit bien la Fadiala. Ouais, vous avez vraiment mis le doigt sur un point important, c'est-à-dire que il s'agit là, en gros, du statut de la femme, tout simplement, parce que là, on décide que la femme n'est pas capable, elle, de prendre la décision de choisir un époux. Enfin bon, voilà, ça c'est une tradition, on appelle ça comme ça. Merci en tout cas Fadiala pour ce témoignage. On va accueillir Aïcha qui est à Abidjan. Bonjour Aïcha, bienvenue.
Bonjour Zéphirin.
Vous souhaitez réagir à ce que vous venez d'entendre, hein. On vous écoute.
Oui.
Allez-y.
Chez nous en Côte d'Ivoire, le mariage forcé c'est plus une pratique courante. Vous savez, avant au nord, la jeune fille n'était pas scolarisée forcément,
oui.
C'est-à-dire qu'elle était prédestinée au mariage. Donc voilà, mais aujourd'hui les mentalités ont beaucoup évolué et puis avec les campagnes de sensibilisation des autorités pour un taux d'alphabétisation beaucoup plus élevé de la jeune fille, cette pratique tend à disparaître. Mais elle disparaît, mais elle a changé de forme. C'est-à-dire, aujourd'hui, les mariages se font de façon arrangée, au cours des cérémonies, soit de baptême, de mariage, on peut dire à une jeune dame, voilà, tu vois ton cousin là-bas, qui a un bon parti, qui a une belle situation, qui est célibataire, ce serait bien que vous mettiez ensemble. Voilà, c'est suggéré, mais c'est pas exigé. Mmh. La jeune fille peut dire non, comme elle peut accepter si elle trouve que le cousin est un bon parti pour elle. Donc, il n'y a plus ce côté austère,
violent. Oui.
Voilà. La jeune femme en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est plus obligée d'épouser un homme qu'elle ne veut. Elle ne veut pas. Voilà, les parents proposent et si elle ne veut pas, elle laisse tomber. Chez nous, là, les mentalités ont changé en tout cas. La Côte d'Ivoire a vraiment évolué dans ce domaine-là.
D'accord.
On n'est plus à cette époque où les mariages étaient forcés.
Merci en tout cas pour ce témoignage. On va voir, on va changer de direction. On va aller à Nouakchott en Mauritanie avec Aïchetou qui est en ligne. Bonjour Aïchetou.
Bonjour.
Alors voilà, vous venez d'entendre Aïcha nous parler du recul hein, de cette pratique en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il en Mauritanie où vous vivez, vous ?
Oui, malheureusement, la pratique du mariage précoce ou forcé persiste dans certains milieux, notamment en milieu urbain pauvre ou en milieu rural. En dépit que la Mauritanie a ratifié la convention du droit de l'enfant et la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Et là aussi, c'est une question de tradition, c'est l'argument de la tradition qui l'emporte sur tout le reste.
Oui, effectivement. Il y a des familles qui, par tradition, mari et leur fille, puisqu'ils pensent que c'est une protection pour les filles contre les relations sexuelles en dehors du mariage, et des familles qui marient leur fille par mesure d'économie, juste pour avoir une bouche de moins à nourrir et avoir la dot par l'époux.
Alors, je crois qu'il y a des associations quand même, des associations qui travaillent sur le terrain pour essayer de sensibiliser, d'apporter quelques informations aux uns aux autres, parce que voilà, un mariage forcé, ça représente un certain nombre de risques. Aboubacar, le premier auditeur, nous le disait, il est gynécologue. Est-ce que ce travail-là est fait ? Est-ce que vous avez le sentiment que dans le pays, on s'empare de cette question-là et qu'on essaie d'apporter des réponses ?
Une synergie d'efforts entre les associations nationales et quelques organisations des droits de l'enfant et de la femme dans l'UNICEF, par exemple, qui est notre partenaire. Nous faisons donc des sensibilisations à travers des campagnes de sensibilisation à l'intérieur du pays, dans le programme de l'éducation parentale, justement, et nous faisons également du plaidoyer aux décideurs afin que la réforme du mariage et le code de la famille soient revus, conformément aux articles 17, plutôt 15 et 16 de la CEDEF, qui stipulent le même droit de contracter le mariage, le même droit de choisir son conjoint de son libre et plein consentement. Et on sait que le consentement d'un enfant dans cet état de choses ne doit pas être pris en considération. Et il y a aussi, malheureusement, le mariage précoce est à l'origine de beaucoup de problèmes psychologiques et physiques.
Et physiques, bien sûr, oui. Oui, je voudrais revenir juste sur un point que vous aviez abordé, là, justement, le point de la législation sur ces questions-là, avec ce témoignage d'un auditeur sur notre page Facebook, un commentaire. C'est Alain, il nous dit qu'en tant que travailleur social et en fonction dans l'une des provinces les plus touchées par le phénomène au Burkina Faso, je peux dire qu'il n'est plus question de sensibilisation, mais plutôt de sanctions. C'est-à-dire qu'il y a un arsenal juridique qui existe, notamment chez vous en Mauritanie, et vraisemblablement il n'est pas appliqué puisque la pratique est toujours très présente dans ce pays.
Le mariage est fixé à 18 ans.
Oui.
Et le non-respect du mariage n'est pas fonctionné du tout. Et c'est pour ça que nous faisons ce plaidoyer afin de mettre l'État devant ses responsabilités et nous sensibilisons aussi les familles pour qu'elles soient sensibles aux droits de l'enfant et son droit à l'éducation, et son droit surtout à ne pas être marié à un âge où il doit être scolarisé, où il ne doit pas être marié.
D'accord. Je voudrais rester en ligne chez tout. Je voudrais qu'on accueille Mamadou qui est à Niamey et qui a justement un avis sur ces questions juridiques. Bonjour Mamadou.
Bonjour, je suis là. Bonjour aussi. Bonjour tous les auditeurs de la radio.
Alors vous êtes à Niamey, que dit la loi au Niger?
Bon, au Niger, la loi sur la protection, n'est-ce pas, des jeunes filles, surtout en ce qui concerne le mariage précoce. D'abord, il faut noter qu'en 2011, préalablement, n'est-ce pas, à cette loi, pour baliser le terrain, le président de la République a annoncé dans son discours d'investiture que l'éducation sera gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Maintenant, en 2012, une loi a été votée au Parlement portant sur la protection de la jeune fille en cours de scolarité. Donc cette loi, elle permet, n'est-ce pas, de protéger les jeunes filles en cours de scolarité jusqu'à l'âge, en tout cas de 16 ans, pour qu'ils ne puissent pas être victimes de mariages forcés ou de mariages précoces. Oui. Et tout de même, nous nous sommes dit qu'il ne s'agit pas seulement de prendre cette loi, parce que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les débats houleux qui ont eu à l'Assemblée nationale. Il y a des élus du peuple qui ont hésité de se prononcer juste pour ne pas être victime de la foudre des leaders d'opinion particulièrement religieuse.
Oui.
Donc, à ce niveau, il faut dire qu'il y a une volonté, n'est-ce pas, de lutter contre ces phénomènes, mais il y a une démission de l'État vis-à-vis, n'est-ce pas, de la communication, parce que les leaders religieux ont communiqué beaucoup plus sur cette question-là. Et l'État a démissionné de manière assez volontaire pour ne pas perdre l'électorat qui est en majorité musulmane. Donc nous pensons qu'il y a une nécessité de dialoguer, de trouver un terrain d'entente, un consensus national sur ces questions. Et surtout dans un État républicain, nous sommes État parti à la CEDEF. Il y a aussi cette question de du code de la famille qui est en train de traîner. Nous avons ratifié presque toutes les conventions internationales portant protection de la femme, de l'enfant, toutes ces questions sont là. Mais il y a toujours ce problème-là d'harmoniser les lois religieuses avec les textes laïcs.
Je crois, oui, voilà. Aïchetou, en une phrase, c'est un peu la même problématique en Mauritanie, cette question de la religion?
Bon, il y a la religion, mais il y a aussi les pratiques culturelles qui n'ont rien à voir avec la religion, puisque la religion n'oblige pas les parents à marier leur enfant quand elle est à l'âge, elle ne doit pas être mariée plutôt. Et il y a ces conséquences, la religion, tout ce qui peut être atteinte à la santé de la personne est prohibé par la religion. Donc la religion, je pense qu'elle n'a rien à voir avec ça. Elle est mal prêtée peut-être ailleurs, interprétée ailleurs, mais ça n'a rien à voir. C'est des pratiques culturelles qui n'ont rien à voir avec la religion.
Oui, des pratiques culturelles qui n'ont rien à voir avec la religion, mais qui sont quand même très fortement inspirées des préceptes religieux. En tout cas, certains dirigeants, certains responsables religieux s'impliquent, s'invitent dans le débat.